Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse. Pour prévenir la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil ou encore les problèmes d'articulation, mieux vaut éviter d'être en surpoids ou obèse, nous dit la littérature scientifique. Perdre du poids pour des raisons médicales mais aussi esthétiques dans une société obsédée par la minceur. La minceur comme signe de maîtrise et de prise de pouvoir sur son corps. Mais comment s'y prendre face à l'avalanche de méthodes d'amincissement souvent contradictoires? À court terme, on le sait, tous les régimes font perdre du poids et à long terme, quasiment tous pèsent lourd sur la balance. Pratiqués sans recommandation ni suivis par un professionnel de santé, l'immense majorité des régimes restent dangereux selon l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Nous verrons ce matin pourquoi notre cerveau met en place des mécanismes de défense face à un amaigrissement rapide et brutal. Comment les neurosciences peuvent nous aider à perdre du poids durablement en trompant notre cerveau? C'est notre thème ce matin. Nous attendons toutes vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, au standard d'Inter 01 45 24 7000. Clarisse et Ulysse attendent vos coups de fil. Et puis sur notre page Facebook, dites-nous si vous pensez que les régimes nous font irrémédiablement grossir à long terme. Et puis dans quelques minutes, vous retrouverez la petite philo du quotidien de Thibaut de Saint-Maurice qui s'intéresse ce matin à la volonté de puissance sur son corps quand on entreprend un régime.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Vous faites quoi là?
Je calcule votre poids santé.
Ah.
Alors, 1m75 pour 80 kg, ça nous fait une masse corporelle de 24,5.
C'est grave, docteur?
Pas du tout. Vous êtes en léger surpoids, alors à mon avis, 5 kg en moins, et c'est idéal.
5 kg?
Oui.
Ah non, c'est pas possible, non.
Pourquoi, c'est trop?
Ah non, c'est pas assez, il faut que j'en perde 15, moi. Donnez-moi le régime le plus dur. Des médicaments, des coupes fins, de la morora, du décap four, n'importe quoi du moment que je ressors d'ici maigre.
Vous savez, c'est pas tout à fait la philosophie de la maison. Ici, on maigrit doucement.
J'ai pas le temps de maigrir doucement. J'ai juste un mois. On attend des résultats. Ma mère est maigre, je travaille avec des maigres et mon mari aime les femmes maigres. Je vais être maigre.
Un extrait du film « Mince alors » de Charlotte de Turckheim en 2012. Comment les neurosciences peuvent nous aider à perdre du poids? C'est notre thème ce matin. Bonjour Michel Desmurgés.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives, directeur de recherche au CNRS. En 2011, vous aviez publié TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Et vous êtes le co-auteur avec Caroline Tricot de L'anti-régime au quotidien, comment maigrir durablement en trompant son cerveau, publié chez Belin. Michel Desmurgés, un anti-régime pour perdre durablement des kilos, c'est apparemment un bel oxymore?
Oui, mais quand on regarde la littérature, on s'aperçoit, comme vous l'avez dit, effectivement, que les régimes ne marchent pas parce que le cerveau est programmé pour les combattre et pour faire en sorte qu'ils ne marchent pas, on pourrait y revenir. Et la seule façon de maigrir efficacement, et surtout à long terme, j'insiste sur à long terme, c'est de faire un régime sans s'en apercevoir. La seule façon que ça marche, c'est de faire un régime voilà, qui soit complètement inconscient.
Alors Michel Desmurgés, vous n'êtes pas médecin nutritionniste, quelle est votre légitimité? Est-ce que votre livre, c'est encore une énième méthode pour maigrir après, par exemple, la méthode à succès de Pierre Ducamp, radiée de l'Ordre des médecins, ou celle de Jean-Michel Cohen, interdite d'exercer la médecine pendant 2 années, dont une avec sursis? C'est une énième méthode, la vôtre?
Non, c'est pas une énième méthode. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, très largement obèse, puisque j'étais à 130 kilos pour 1m75. Donc, j'ai essayé toutes ces méthodes-là. J'ai essayé Ducamp, j'ai essayé Atkins, j'ai tout essayé. Et effectivement, il m'est arrivé ce qui arrive à tout le monde. J'ai perdu du poids. Et puis, à chaque fois, j'en ai repris un peu plus, ce qui m'a amené à cette situation un peu difficile au niveau sanitaire. Donc à un moment, je me suis dit, soit vraiment je suis génétiquement programmé pour être obèse et puis on n'en parle plus, soit il y a quelque chose qui ne va pas avec ces méthodes-là. Donc je suis allé faire ce que je suis payé pour faire en gros dans mon travail, c'est-à-dire je suis allé consulter la littérature scientifique pour voir ce qu'il y avait dedans, si on pouvait maigrir, quels étaient les tenants et les aboutissants de l'affaire. Je me suis aperçu qu'on pouvait, mais surtout en ne s'inspirant pas des méthodes classiques de type Ducamp et autres. Et si j'ai écrit le livre, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre, mais les gens vous demandent tout le temps, comme j'ai perdu 50 kilos, les gens vous demandent, mais comment t'as fait? Et comme c'est pas facile d'expliquer ça sur un coin de table en 3 minutes, voilà.
Et ce que vous avez constaté, c'est que perdre du poids trop rapidement conduit inévitablement à la reprise des kilos perdus.
Ouais, parce que le cerveau, pour lui, l'excès de graisse, c'est pas une menace. C'est-à-dire qu'il a rien qui lui permet de savoir que les artères sont en train de se boucher, que le foie est en train de dysfonctionner. Pour lui, c'est pas un problème. Le vrai problème et la vraie peur du cerveau, c'est la famine. Et il a été programmé par des centaines de milliers d'années d'évolution pour combattre la famine. Donc, il fait pas la différence entre un régime et une famine. et on pourra en parler, mais la liste des défenses qu'il va pouvoir mettre en place pour lutter contre la famine est absolument fascinante. C'est à côté, la ligne Maginot, c'est une aimable plaisanterie.
Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine, que l'on retrouve tous les lundis. Alors vous évoquerez tout à l'heure les édulcorants que nous avons tendance à utiliser dans la guerre contre les kilos en trop.
Oui, on les utilise parce qu'ils ont un fort pouvoir sucrant et puis ils n'apportent aucune calorie. Alors on se dit que ça va être génial, mais pas vraiment en fait.
À tout à l'heure Aline Perraudin. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Vous appelez de l'Essonne.
Oui.
Alors, dites-nous tout sur notre sujet du jour.
Eh bien, ce que je me dis, c'est que évidemment, la lecture de ce livre, ça va vraiment, je serais vraiment intéressée d'en prendre connaissance parce que, en fait, de manière, on va dire entre guillemets, un petit peu comme ça, empirique ou intuitive, selon, je me suis dit que de toute façon, j'allais jouer un petit peu, de manière, on va dire, pour être vraiment très gratifiante et très bienveillante à mon propre égard. Eh bien, je me suis dit que de toute façon, il fallait que je m'amuse à leurrer mon cerveau, c'est-à-dire que si je recevais des petits messages qui me conduisaient à manger plus que davantage, etc. J'essayais de trouver des différents procédés un petit peu de détournement, disons, ou d'autres façons de capter mon attention, de la détourner.
Comment vous y prenez pour leurrer votre cerveau ? Comment vous vous y prenez pour leurrer votre cerveau ?
Alors, comme je dis, hein, c'est comme ça un petit peu de manière empirique. Alors, bon, quelquefois, c'est suivant mon activité. D'abord, c'est toujours m'occuper, enfin, de toute façon, prendre une activité, attirer mon attention sur d'autres choses qui me plaisent et qui dérangent, qui donnent aussi une sensation de pas de comblement, mais bon voilà, c'est vrai que ça peut être ou écouter de la musique. Je dirais que moi les couleurs, je les absorbe parce que voilà, ce sont des choses qui m'environnent et que j'utilise dans mon activité. Donc ça m'intéresse. Il y a les odeurs aussi, parce que je sais que certaines odeurs ont tendance un peu à calmer l'appétit.
Par exemple,
certains parfums sont réconfortants.
Quelles odeurs? Bah,
disons que moi je trouve que la cannelle, par exemple, elle a un côté, c'est quand même, je trouve que ça fonctionne. Puis après, il y a des parfums qui sont, c'est plutôt des odeurs de bien-être qui sont, qui ont tendance à déstresser. Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, je sais que souvent les prises de poids, ça a été dans le cadre de moments avec différents chaos dans ma vie, aussi du stress. Et ça m'a conduit à prendre des kilos que j'ai eu beaucoup de mal à perdre avec les années venant.
Michel Démurger sur les stratégies pour leurrer son cerveau de Catherine.
C'est des stratégies qui marchent. En gros, il y a trois façons de faire. Il y a trois leviers sur lesquels on peut agir pour que ça marche sans qu'on s'en aperçoive ou que le cerveau s'en aperçoive. Le premier, c'est l'environnement. Comme l'explique Catherine, il y a tout un tas d'instigateurs, ils appellent les instigateurs clandestins, qui font que dans notre environnement, on va avoir tendance à manger plus. Donc, ils vont déclencher la faim. Donc, on peut agir sur ces facteurs-là pour manger moins. Ensuite, il y a des habitudes sur lesquelles on va pouvoir agir en agissant. Il y a des habitudes qui vont, pareil, nous pousser à manger ou vont faire en sorte que notre métabolisme va se mettre à stocker plus, à manger plus. On peut agir sur ces habitudes-là. Et puis, le troisième facteur, c'est évidemment ce qu'on mange. C'est la façon, notamment, dont on va cuisiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une révolution. En cette matière-là, les révolutions, non seulement ça ne marche pas, mais c'est contre-productif. Et vraiment, en changeant de toutes petites choses dans la façon dont vous allez cuisiner, dans la façon dont vous allez choisir les aliments, vous allez pouvoir gagner chaque jour quelques dizaines à centaines de calories. Et à l'arrivée, sur la balance, ça fait des différences qui sont colossales. Donc oui, c'est une très bonne méthode de leurrer le cerveau et d'avoir cette approche-là. Oui.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
C'est vrai que les gens souvent ont du mal à mincir parce qu'ils ne savent plus s'écouter et ils ne savent plus écouter leurs désirs parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un environnement où il y a beaucoup d'offres alimentaires. Donc quand on va au supermarché, on regarde juste près des caisses, on voit des bonbons, c'est pas des fruits et légumes. Pour aller chercher de l'eau, il faut passer souvent dans des rayons où il y a plus de tentations. Donc certes, ces méthodes marchent, mais il faut aussi être bien conscient qu'il y a des méthodes où on veut nous faire manger ce qu'on n'a pas forcément décidé. On regarde la publicité pour les enfants notamment, c'est terrible. On fait la promotion beaucoup plus des aliments gras et sucrés que des aliments sains. Donc il faut aussi savoir déjouer ça et c'est pas si simple.
Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelé de l'Essonne. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Dites-nous si vous pensez que les régimes nous font grossir à long terme. En attendant, svelte comme une sylphide, dans la perspective du marathon de Paris qu'il court dans 15 jours. Thibaut de Saint-Maurice et sa petite philo de la vie quotidienne.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Sylphide de Saint-Maurice.
Bonjour.
Ce matin, vous vous mettez au régime.
Avant, j'avais une belle peau. J'étais mince et fier comme un pied de micro. Torse nu pour un oui pour un non. Quand le soleil fait ses apparitions. Mais à tout prix devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou?
Vous aurez reconnu Sans Severino qui pose bien donc tout le problème dans cette chanson, tout le problème de notre affaire ce matin. Comment devenir fin sans devenir fou? La minceur est une injonction sociale très forte, on l'a déjà rappelé. On nous répète qu'il faut éviter de manger trop gras et trop sucré, qu'il faut manger des 5 fruits et légumes par jour et qu'il faut aussi faire 30 minutes d'activité physique. Bref, cette tyrannie de la silhouette risque de devenir une obsession jusqu'à nous faire perdre la tête au lieu de nous faire perdre du ventre. Alors pourquoi un tel risque? Eh bien parce que l'obsession repose sur une incompréhension des pouvoirs de notre volonté.
Thibaut de Saint-Maurice, il y a cette idée que si l'on a pris du poids, c'est que l'on s'est laissé aller et qu'il suffirait de se reprendre, de faire preuve de volonté pour s'en sortir et retrouver la ligne.
Oui exactement Ali, vous la décrivez bien, c'est cette petite mythologie de la volonté qui nous fait croire qu'il suffirait de vouloir se mettre au régime, de vouloir encore pour le suivre et puis de continuer de vouloir enfin pour ne pas rechuter. On prendrait donc du poids parce qu'on ne voudrait pas avec suffisamment de détermination, comme le castor qui lui construit son barrage. Du coup, nous nous laisserions déborder par nos impulsions, vous savez, le Saint-Honoré à la fin du repas, les croissants le matin, et puis on reprend des frites, et puis on fait tourner une deuxième fois le plateau de fromage. On sait bien qu'il ne faut pas, mais on ne le veut pas avec suffisamment de force. C'est l'expérience de la mauvaise volonté, d'une volonté qui veut mal parce qu'elle ne veut pas suffisamment, qu'elle s'en tient à la velléité du régime, mais qu'elle ne dure pas assez pour en passer finalement à la réalité.
Alors comment fait-on pour se mettre au régime, Thibaut ?
Eh ben, on commence par mettre sa volonté au régime, parce que nous ne sommes pas à la disposition de notre volonté. Avant donc d'aller consulter un nutritionniste, je vous conseille un petit détour par la philosophie de Paul Ricoeur. Ricoeur rappelle simplement qu'il n'y a pas de volontaire sans involontaire. Une volonté qui veut toute seule est une volonté abstraite, désincarnée, séparée de notre présence dans le monde. Bref, une volonté qui à terme est vouée à l'échec. Parce que nous commençons, nous, à vivre dans l'involontaire, c'est-à-dire, par exemple, donc dans la vie biologique, organique et dans ces rythmes qui nous échappent, dans notre corps et dans ses mouvements réflexes, dans notre inconscient et dans ses impulsions ignorées. À partir de là, on ne veut pas comme on appuierait sur un bouton. C'est comme pour la marche en fait. On ne décide pas un jour de marcher, mais on apprend à marcher en marchant. Ricoeur montre ainsi qu'il n'y a pas de continuité claire entre la délibération, la décision et l'action. Il faut au contraire faire émerger le volontaire sur ce fond d'involontaire par un patient travail d'élucidation, de reconnaissance et de prise de conscience. Au fond, il ne s'agit pas tant de décider que de consentir. Le régime commence donc par une compréhension de ce qui se joue en nous avant de vouloir s'imposer des jeux que nous ne pouvons pas tenir. Et puisque donc le cerveau et ses mécanismes régulent nos équilibres hormonaux et que ces équilibres hormonaux déterminent à leur tour le rapport de notre corps à ce qu'il mange, eh bien il faut commencer par tenir compte de notre cerveau. Voilà, il n'y a donc pas de régime miracle, mais sans doute que le miracle du régime, c'est de nous apprendre à étendre le domaine du volontaire en nous, non pas en voulant plus, mais en voulant mieux.
Le regard de Michel Desmurger. Je rappelle que vous dirigez une équipe de recherche sur la plasticité cérébrale au sein de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret de Lyon.
Si je peux me permettre, sur la volonté, c'est très intéressant parce que souvent les gens culpabilisent, les régimes marchent pendant un temps et à un moment, quand la physiologie, quand le cerveau va commencer à développer et à mettre en avant ses lignes de défense, il va rentrer directement frontalement en conflit avec la volonté. Et quand la physiologie rentre en conflit avec la volonté perd toujours. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est, il y a des échelles, voilà ce qu'elles valent, mais il y a des échelles de volonté, d'autodiscipline, qui corrèlent très très bien, par exemple, avec la réussite scolaire ou la réussite professionnelle. Ceux qui ont de bons scores à ces échelles-là ont une très bonne réussite scolaire ou professionnelle. Ces échelles corrèlent à zéro avec la réussite au régime. Vous pouvez avoir la volonté d'un moine ascétique au milieu du désert, vous vous en sortirez pas avec votre régime une fois que les mécanismes physiologiques seront engagés. Et culpabiliser les gens en leur disant c'est parce que vous avez pas de volonté, c'est juste terrible. En fait, ces échecs-là, ils sont pas dans la volonté des gens, ils sont dans la structure même de ces régimes. Et c'est tout à fait déplaisant, pour le dire gentiment, que les gens se voient envoyer cette affaire-là, cette idée. Ouais.
La petite philo de la vie quotidienne, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse avec Thibaut de Saint-Maurice, une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Ali Rebéi sur France Inter.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. You've been scared of love. And what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night. So baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple touch.
Daft Punk à 10h26, ça fait du bien. I feel it coming.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h26, comment les neurosciences peuvent nous aider à durablement perdre du poids? C'est notre question ce matin en compagnie de Michel Desmurger, chercheur en neurosciences cognitives au CNRS et l'auteur de l'anti-régime au quotidien, et avec la complicité d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Bonjour Marion, vous nous appelez de Bergerac. Bienvenue dans l'émission.
Oui. Merci beaucoup, bonjour à vous. Je me permets d'appeler parce qu'en fait, j'ai lu le livre du professeur Démurger il y a quelques années, Passage à la tête au carré.
Alors.
Et je voulais témoigner de la réussite, justement, et je voulais accentuer sur trois points qu'il précise dans le livre.
Allez-y.
Le premier, c'est qu'il nous permet de recalculer les besoins. Et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, tout bêtement, je mangeais trop. Je faisais partie de ces gens qui pensaient grossir en regardant un gâteau. Et je me suis rendu compte que je le mangeais, ce gâteau. et que tout bêtement, pour maigrir, il faut manger moins, même si ça paraît complètement idiot. La deuxième chose qu'il explique et qui se vérifie, c'est que globalement, il y a besoin de 3 mois d'effort pour installer des nouvelles habitudes alimentaires. Ces 3 mois sont des mois de régime parce qu'il faut faire attention. Mais ensuite, c'est vraiment un réflexe que de prendre un fruit plutôt que de prendre du chocolat, que de pas grignoter et de s'occuper en allant marcher ou en faisant autre chose plutôt qu'en mangeant. Et la troisième chose pour laquelle je voulais le remercier, c'est les courbes de suivi qu'il fournit dans le livre et qu'on peut trouver sur le site internet de l'éditeur, qui permettent de suivre au long terme un amaigrissement qui effectivement est lent. Et ça permet de relativiser éventuellement un écart ponctuel d'un jour, puisque la perte de poids se lisse sur 15 jours, et de voir que finalement, semaine après semaine, mois après mois, on perd du poids. C'est tout à fait jouissif de regarder la courbe quand on l'a sous les yeux.
Michel Démurger, rassurez-moi, c'est ni votre sœur ni votre cousine qui vient d'appeler.
Dis entre non. mais en tout cas, oui, merci, mais... Je reçois un certain nombre de témoignages et des gens qui vous écrivent, qui vous envoient des mails et l'avantage c'est que ça marche et l'inconvénient c'est que ça prend un petit peu de temps, c'est-à-dire je sais pas en combien de temps madame a perdu un peu le poids qu'elle désirait perdre.
En combien de temps Marion?
La métronome 12 kilos en 12 mois.
Voilà. C'est à peu près la courbe tolérable pour que justement ça passe en dessous des radars organiques et que le cerveau le voit pas. Mmh. Et voilà, le problème c'est que si vous acceptez d'attendre 12 mois ou 24 mois pour perdre 12 ou 20 kilos, ça se passe bien. Si vous voulez les perdre en 2 mois, vous allez les perdre en 2 mois, mais vous les reprendrez. Donc vraiment, encore une fois, le coup, c'est la patience.
Merci beaucoup Marion de nous avoir appelé de Bergerac. Alors Michel Démurger, pourquoi l'immense majorité des régimes ne fonctionnent pas à long terme? Le principe fondamental de la plupart des régimes, c'est qu'ils sont brutalement hypocaloriques et déséquilibrés.
Alors, il y a 2 types de régimes. Il y a ceux qui vont se dire équilibrés, mais qui vont couper dans la ration calorique. Vous allez vous retrouver à 800 ou 900 calories par jour. Et puis, il y a des régimes qui vont être indirectement hypocaloriques. C'est-à-dire, par exemple, le régime Atkins, on va vous dire mangez autant que vous voulez, mais mangez que de la viande, de la mayonnaise, des œufs, etc. Et ces régimes-là, au bout d'un moment, vous en avez tellement marre de manger de la viande que c'est des études qui ont montré qu'au bout d'une semaine à 10 jours, vous avez diminué de 40 à 50% votre prise calorique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les études ont montré que vous pouvez, il y a ce baratin, manger des protéines, manger de la viande, manger des glucides, manger. Et ça a été fait chez l'animal, ça a été fait chez l'homme, tous ces régimes ont été comparés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en dernière analyse, la seule chose qui compte, vous pouvez répartir le même compte calorique en glucides, en lipides, en viande, en légumes, en ce que vous voulez, le résultat est exactement le même. Donc ce qui compte, c'est simplement le compte calorique que vous allez avoir.
Alors que se passe-t-il quand notre corps, notre cerveau se rend compte qu'il est soumis à une cure d'amaigrissement ?
Il prend la trouille. Il prend la trouille, il voit que ses réserves de graisse vont commencer à baisser. Et alors là, il met en place un certain nombre de mécanismes. Le premier, c'est si vous avez besoin maintenant de, disons, pour ce qu'on appelle le métabolisme de repos, ce qui sert à régler les fonctions vitales, la respiration, la gestion de la température, etc., les battements cardiaques, si vous êtes à 1200 calories, le cerveau, il va se mettre à faire la même chose avec moins. Donc, si vous mangez la même chose, vous allez recommencer à grossir. Et puis après, il va déséquilibrer votre système hormonal. C'est-à-dire que vous avez une hormone qui est la leptine, qui est l'hormone de satiété, qui vous dit que vous avez assez mangé, que vous avez plus faim. Cette leptine-là, on a montré qu'après un régime très hypocalorique, elle a diminué sa concentration dans le flux sanguin, elle a diminué de 95%. Donc vous avez constamment faim. Et puis le cerveau, il va faire des choses en périphérie. C'est-à-dire que vous avez des capteurs d'étirement dans l'estomac qui vous renseignent sur le fait que vous avez mangé suffisamment, il y a réplétion ou pas. Ces capteurs, ils vont être débranchés. Et puis vous allez avoir aussi des activités au niveau cérébral. C'est-à-dire que le système perceptif, par exemple, on va pouvoir le régler. Et donc le cerveau, il va régler le système perceptif pour que vous deveniez hypersensible à tout ce qui touche à la nourriture, notamment aux aliments gras. Donc vous allez avoir vraiment des pulsions de consommation. Les chercheurs parlent de machines affamées quand le cerveau est dans cet état-là. Et puis, dans le même temps, les mécanismes de la volonté, ils sont ancrés quelque part. Donc, les mécanismes cérébraux, les réseaux cérébraux qui vont vous permettre de vous dire quand vous voyez le chocolat sur la table, j'y touche pas, ces réseaux-là, ils vont être désactivés. Donc, en fait, on va se retrouver avec une espèce de machine physiologique qui va être une machine complètement affamée, dont la seule préoccupation, c'est de trouver de la nourriture et qui va faire en sorte que vous allez consommer moins d'énergie et vous allez manger plus. Donc, forcément, vous
Michel Desmurger, en matière de perte de poids, il existe une règle arithmétique des reins. Ce qui compte en matière de contrôle pondéral, c'est avant tout le bilan énergétique.
Oui. C'est-à-dire que c'est la différence entre ce que vous allez manger et ce que vous allez dépenser. Donc c'est pour ça.
Mais ça paraît évident comme ça.
Ça paraît évident, mais c'est pas ce que nous disent beaucoup de régimes à la mode où on nous dit vous pouvez manger de la viande et puis de toute façon c'est pas métabolisé. Vous pouvez manger.
Pas que des régimes à la mode. Aussi oui. Beaucoup de médecins où ils disent toutes les calories ne s'équivalent pas. C'est vrai que par exemple si on prend 150 kilocalories d'une boisson sucrée ou 150 calories d'amande, il n'y a pas les mêmes nutriments, il n'y a pas forcément la même satiété. Donc et certains médecins disent le corps n'est pas uniquement une chaudière, il faut faire attention aussi, le modèle calorique c'est un modèle comptable.
Alors malheureusement le corps fonctionne comme une chaudière, c'est-à-dire que si vous prenez des hommes, des animaux, des singes, des rats, tout ce que vous voulez, et que vous leur donnez 150 calories sous forme de soda ou sous forme d'amande, le résultat sur le poids sera le même.
Après, qu'il y a des effets quand on voit quand même sur le pic, sur la glycémie, le pic d'insuline, peut-être que vous dites c'est le même, on ne sait pas, sur le microbiote,
non,
etc.
Mais qu'il y a des différences au niveau de la façon dont ces nutriments sont importants pour l'organisme ou pas, personne ne le discute. Maintenant, si on parle en termes de poids et de prise pondérale, ça a été testé, ça a été fait.
Oui, mais regardez, par exemple, quand on prend des produits allégés ou les boissons non sucrées, on voit qu'elles n'aident pas à maigrir par rapport aux boissons sucrées. Donc on voit bien que ce n'est pas si simple, cette méthode de comptage de calories.
Non, mais c'est simplement parce qu'alors là, pour le coup, ça a été bien documenté. C'est-à-dire que les édulcorants 1 vont perturber le fonctionnement du microbiote intestinal.
Donc vous voyez.
Non, mais c'est pas les édulcorants qui nous font grossir. C'est le fait que, et deuxièmement, le cerveau attend du sucre. Et ça va perturber les mécanismes de la faim. Donc, c'est pas les édulcorants qui font qu'on va grossir ou pas, c'est l'action des édulcorants sur la faim qui fait qu'on va manger plus et qu'on va prendre plus de calories. Et là encore, on retombe sur une histoire de calories, à savoir que les édulcorants vous font manger plus. Et il y a des études qui montrent que si je vous donne une bouteille de soda classique ou une bouteille de soda aux édulcorants, eh ben vous allez prendre autant de poids dans un cas que dans
l'autre. Oui, mais les gens, s'ils regardent les calories, il y a marqué zéro calorie sur leur soda light. Et pour autant, ils ne vont pas maigrir.
Michel Desmurger, l'échec en matière de perte de poids n'est pas inévitable. Il existe un petit nombre d'individus qui réussissent à perdre du poids durablement. Que nous dit la recherche scientifique sur ces réussites? Des individus qui ont, par exemple, réussi à perdre 25 kilos en 10 ans sans jamais reprendre de poids.
Alors, c'est des gens qui ont été effectivement répertoriés dans une base de données, qui sont maintenant suivis depuis plus de 10 ans, depuis une quinzaine d'années. Et il y a une chose qui est fondamentale chez ces gens-là, on peut mesurer l'engagement des défenses corporelles et métaboliques au régime, et ces gens-là n'ont pas déclenché ces mécanismes de défense. Donc, la caractéristique principale de ces gens, c'est que leur corps ne se défend pas. Il n'a pas perçu le régime.
Pourquoi?
Alors, il y a sûrement deux réponses à ce facteur-là. Alors, ces gens représentent pas beaucoup quand même, c'est 4 à 5% de la population au maximum. Le premier facteur, c'est que ces gens-là sont génétiquement faits pour que leur mécanisme ne s'engage pas ou s'engage plus tardivement. C'est sûrement une fraction de ces gens-là. Mais surtout, quand on regarde le détail de la façon dont ces gens ont maigri, ils n'ont rien mis en place qui ne puisse pas maintenir sur la durée, parce qu'il faut comprendre que tout changement transitoire est un changement voué à l'échec. Donc, ces gens-là, ils ont fait des petites choses, ils ont empilé les petites choses sur la durée, et c'est en empilant ces petites choses-là sur la durée que ces gens-là ont réussi à maigrir.
Alors, si je vous comprends bien, le corps a du mal à percevoir les pertes de poids très lentes. Vous parlez même de pertes de poids subliminales.
Je suis passé devant la scène, non. Imaginez que demain matin, la scène, elle soit 2 mètres plus bas. Vous allez le voir. Personne ne va le rater. Maintenant, imaginez que la Seine, elle perde 1 millimètre tous les jours. Vous ne le verrez pas. Quand vous avez des gamins, moi, ma fille, je ne la vois pas grandir. Quand sa tante vient et qu'elle la voit une fois tous les 6 mois, elle voit la différence. Donc, les changements très rapides, comme ça, le cerveau ne les voit pas. Il ne les perçoit pas. Parce que le cerveau est malin, mais il a des capteurs, c'est-à-dire il a des instruments qui lui permettent d'être renseigné sur l'état de ses réserves de graisse. Et ces capteurs-là, ils sont imprécis. Et donc, ils ont une marge d'erreur. Et si vous restez dans cette marge d'erreur, qui est quand même relativement importante, mais si vous restez dans cette marge d'erreur, vous allez pouvoir perdre du poids sans affoler le cerveau et sans qu'il le voie. Et petit à petit, comme vous allez descendre suffisamment lentement, la Seine, si elle descend d'1 millimètre par jour, dans 2 ans, ou 3 ans, quand elle aura perdu 2 mètres, et ben ça deviendra la référence pour vous.
Mais le problème, c'est qu'on, quand on se met à faire un régime, on a tendance à croire qu'il faut être brutal, qu'il s'agit d'une guerre éclair, d'un blitzkrieg. Il est difficile de lutter contre cette idée-là quand on commence un régime.
Surtout, on veut un résultat.
Exactement.
Donc, parfois, on est découragé. Si on vous dit qu'il faut attendre 2 ans, des personnes, ne serait-ce parce qu'elles doivent se faire opérer ou parce que, voilà, elles ont des fois, il y a des raisons médicales.
Comment ne pas se décourager, Michel Demurger ?
Qu'il y ait des raisons médicales et que certaines personnes doivent perdre extrêmement vite, c'est quand même pas la majorité de la population. Que ces cas existent, pas de problème. Ils vont chez leur médecin. Et
ils maigrissent pas forcément mieux qu'en le faisant eux-mêmes. On l'a vu, il y a des études qui montrent pas que c'est forcément mieux conduit.
Ah, un bon nutritionniste bien formé, c'est quand même, ça aide quand même.
Enfin, regardez, vous parlez des régimes.
Oui, mais tous les médecins, enfin, il y a un problème.
Ils n'ont pas forcément une formation sur la nutrition.
Il y a des études qui le montrent, la formation effectivement sur les médecins en nutrition est pas optimale. Ouais, mais un bon nutritionniste qui fait bien son travail, c'est bien.
Michel Demurger, plusieurs études montrent que nos efforts les plus infimes ont un réel impact sur notre balance, mais il faut être très patient. Prenons l'exemple de ce petit carré de chocolat noir qui accompagne notre café ou ce verre de soda avalé tous les jours.
Alors, ce qu'il faut comprendre,
un impact, sur...
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses se cumulent. Poids. C'est long, mais c'est pas si long que ça. C'est-à-dire que le petit carré de chocolat qu'on nous met avec notre café, il pèse quoi ? 10-12 grammes. C'est 70 calories. Ce petit carré de chocolat, si vous l'empilez tous les jours pendant un an, vous aurez empilé un peu plus de 2 kilos de graisse, principalement saturée. Si vous prenez l'équivalent d'un soda tous les jours, vous aurez, ça dépend du soda, mais vous aurez pris au bout d'une année entre 13 et 15 kilos de sucre. Vous allez au magasin, vous achetez 15 paquets de sucre et c'est l'équivalent de ce que vous avez rentré dans l'organisme. Si vous supprimez ce petit carré de chocolat, vous allez perdre 5 kilos. Alors vous n'allez pas les perdre tout de suite, vous allez les perdre très lentement, c'est-à-dire que la première année, vous allez en perdre 2,5, puis ensuite la deuxième année, vous allez en perdre encore 1, et puis ensuite ça va se lisser et au bout de 4 ans, vous aurez perdu vos 6 kilos. Donc c'est long. La moitié est perdue sur une année. Si vous supprimez l'équivalent d'un croissant au beurre, si vous supprimez 250 calories, c'est pas énorme, vous allez perdre une vingtaine de kilos.
Et puis si tous les jours nous prenons l'escalier plutôt que l'ascenseur, et ben ça a un impact sur notre poids au bout d'un an.
Oui. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas de calories perdues, il n'y a pas de calories vaines, il n'y a pas d'efforts qui sont vains. Toutes les calories que vous allez pouvoir gagner en prenant de la viande à 10% de matière grasse au lieu de la prendre à 20%, en descendant un arrêt de métro plus tôt, en prenant l'escalier plutôt que l'escalier roulant, toutes ces calories-là, à l'arrivée, vont se traduire. Mais ça va être important comme différence. Il y a plein de modèles, effectivement, épidémiologiques, qui montrent que ces gens-là, ça a été testé. C'est pas juste des chiffres théoriques.
Aline Perraudin.
Parfois, pour gagner des calories, les gens utilisent des produits allégés. Mais là, il faut faire quand même très attention, parce qu'il y a des produits allégés qui ne sont pas allégés en calories. Ils sont allégés en nutriments, par exemple, mais ils ont moins de sucre, mais plus de graisse. Donc, il faut bien regarder l'étiquetage.
Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com. Dans un instant, nous vous dirons comment tromper son cerveau sans s'affamer.
You
Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h43, comment les neurosciences peuvent nous aider à durablement perdre du poids en compagnie de Michel Desmurgés, chercheur en neurosciences cognitives au CNRS et avec la complicité d'Aline Perraudin de Santé Magazine. Et nous accueillons Alizée de Paris. Bienvenue Alizée.
Bonjour.
Alors vous, vous mangez très équilibré, vous avez une vie assez saine, mais il y a un problème.
Oui, il y a un problème, c'est qu'il y a des périodes où je suis obsédée par mon poids et c'est dans ces périodes-là que je vais prendre du poids, en fait.
C'est paradoxal?
Oui, c'est assez paradoxal et du coup, c'est difficile de savoir à la fois quand arrêter d'être obsédée par ça et en même temps faire attention.
Elle parle d'obsession, Alizée, Michel Desmurgés.
Ah, je peux comprendre. Moi, j'ai été vraiment. Alors, je sais pas quel est exactement votre statut pondéral parce que il y a des gens qui sont vraiment obèses et pour eux, c'est vraiment bien de faire quelque chose. Encore une fois, s'ils le souhaitent, il faut surtout pas y aller forcer. Après, il y a beaucoup de gens qui ont un poids sanitairement ou médicalement sain et qui veulent quand même perdre du poids. Et pour ces gens-là, ouais, ça tourne un peu souvent à l'obsession et c'est compliqué parce que ça dérègle tout le système de régulation pondérale, c'est le cas de le dire, et ça crée des prises de poids parce que. Le cerveau est pas idiot, c'est-à-dire que vous l'avez mis au régime et il a vu c'est un peu comme vous courez, c'est un peu comme la personne qui va courir, vous allez diminuer les réserves énergétiques dans les muscles et le muscle se dit tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois, donc il fait des réserves un peu plus haut. Et là pour le régime c'est pareil, vous avez perdu du poids. Donc le cerveau se dit oula, une fois je suis passé près de la correctionnelle, donc il refait des réserves un petit peu plus hautes. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que on a cru longtemps que le fait d'avoir empilé plusieurs régimes était un problème pour les pertes de poids ultérieures. Et il y a 3-4 études récentes qui montrent que non, pas du tout. C'est pas parce qu'on a échoué 20 fois, et les gens dont on parlait tout à l'heure qui ont réussi à perdre du poids, l'une de leurs caractéristiques communes, c'est qu'ils se sont tous plantés un nombre incalculable de fois avant d'y arriver. Et c'est pas parce qu'on a foiré qu'on va pas réussir le suivant.
Michel Desmurgés, pour vous, bien manger, c'est l'une des pistes pour échapper à l'excès de poids. Mais Alizée a l'air de bien manger. Elle nous dit qu'elle mange très équilibré, qu'elle a une vie assez saine.
Oui, mais elle parle Alizée de ces périodes où elle est obsédée par son poids. Et je sais pas comment elle mange à ce moment-là.
Alizée.
Ça peut être des périodes justement où je vais craquer plus facilement. Ou peut-être qu'il y a un moment où je vais me jeter sur quelque chose que j'aurais pas fait si j'y pensais pas.
Alors il y a effectivement il y a un lien. Alors le fait d'être obsédé entre guillemets par son poids va créer un phénomène de stress et on sait qu'il y a un lien très clair entre le stress et la prise de poids. Quand on est stressé, on va principalement s'orienter où on va être très attiré par des aliments gras, des aliments sucrés, des aliments hyper caloriques et hyper riches, des aliments qu'on appelle aliments de confort parce qu'ils sont vraiment réconfortants. Et donc voilà, ça peut passer par ces boucles-là, plus vous allez être obsédé et donc agir sur le stress, ça peut être une bonne idée.
Merci beaucoup Alizée de nous avoir appelé de Paris. Michel Desmurgés, quand on cherche à perdre du poids, il est nécessaire de conserver le plaisir gustatif. Bien manger ne rime pas avec punition. Il faut donc tromper son cerveau.
Ouais, moi j'ai cru longtemps que les légumes et bien manger c'était une punition. Ce qu'il faut dire c'est que le corps, il n'a pas seulement besoin, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas seulement besoin de calories, il a aussi besoin d'un certain nombre de nutriments, il a besoin de vitamines, il a besoin d'oligo-éléments, il a besoin de tout un tas de trucs. S'il les trouve dans sa ration alimentaire normale, ça va bien se passer. Mais s'il ne les trouve pas, il va pousser la faim pour les obtenir. S'il n'a pas assez, par exemple, d'acide gras essentiel, il va vous faire manger plus. Donc c'est en ce sens-là que c'est important d'avoir une alimentation suffisamment large pour pouvoir couvrir les besoins, parce que quand les besoins ne sont pas couverts, on mange davantage. Après, il n'y a pas besoin non plus de devenir un ayatollah du « je ne mange que des légumes et des brocolis ». Il suffit, entre guillemets, de changer très peu de choses. C'est-à-dire que quand vous faites des spaghettis bolognaises, comme on disait tout à l'heure à la pause, vous allez prendre de la viande un peu moins, vous allez prendre de la viande à 10% ou de la prendre à 20%, vous allez rajouter un petit peu plus de carottes, un petit peu moins, vous allez rajouter un petit peu plus de tomates et vous allez prendre un peu moins de pâtes. Et en mettant en place des choses comme ça de façon régulière, c'est des dizaines à quelques centaines de calories qui vont pouvoir être économisées tous les jours. Quand vous allez au restaurant, vous avez le choix entre deux pizzas qui vous font également plaisir, la 4 fromages et la chorizo, sachez que la chorizo, elle va vous coûter 20% de calories en moins, etc. Mais il faut un minimum de conscience nutritionnelle et savoir combien pèsent les aliments pour savoir que quand je suis au dessert, il vaut mieux que je prenne l'éclair au chocolat plutôt que la tarte au citron, même si les deux me font également plaisir.
Comment tromper sa faim? Comment manger moins sans s'en apercevoir? Il faut quand même avoir à l'esprit que depuis une vingtaine d'années, voire plus, la taille de ce que nous considérons comme une portion standard a explosé.
Le cerveau a un problème, c'est qu'il n'est pas capable d'apprécier précisément le volume de nourriture dont il a besoin et la quantité d'énergie dont il a besoin. Donc il travaille de façon indirecte. Il travaille avec des normes extérieures, c'est-à-dire que pour lui, quand vous lui servez des pop-corns dans un gros paquet ou dans un petit paquet, ou quand vous lui servez la nourriture dans une grande assiette ou dans une petite assiette, c'est la norme. Donc pour lui, ça devient ce qu'il faut manger. Donc plus l'assiette est grande, mais plus l'ensemble de la vaisselle est grande et plus il va consommer. Plus vous allez prendre des paquets. Si vous prenez un paquet, vous achetez un paquet de pâtes de 1 kg, vous avez l'impression que vous avez fait une super affaire, vous êtes content, vous l'avez payé 10% moins cher. Si vous achetez le pâte de paquet de 1 kg par rapport au paquet de 500 grammes, quand vous allez les mettre dans votre poêle et que vous allez cuisiner, vous allez en mettre 20% de plus. Donc plus le paquet est grand, plus on en met. Il y a ça, et il y a la deuxième chose, c'est que le cerveau, il a ses normes, mais dans un deuxième temps, il travaille au volume. Il ne sait pas la quantité d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez un plat de pâtes avec des légumes, si vous avez un petit peu plus de légumes et un petit peu moins de pâtes, le cerveau va en manger, le corps va en consommer exactement la même quantité sans faire de différence au niveau, si c'est suffisamment subtilement fait et cuisiné, sans avoir de différence au niveau de la qualité du goût, sauf qu'à l'arrivée, ça va faire une différence énorme au niveau énergétique et ces différences vont s'empiler.
Bonjour Marie. Bonjour oui, Marie.
Bonjour.
Vous appelez du Bas-Rhin, où exactement?
Écoutez, je suis dans un petit village qui s'appelle Krastatt et qui se trouve à peu près à 30 km de Strasbourg. Voilà.
Bon, alors comment vous y prenez pour ne pas trop prendre de poids, pour ne pas grossir? Quelle est votre méthode dans une région aussi gourmande?
Oui, justement. Ben, écoutez, moi j'ai défini ça toute seule à un moment donné. J'ai eu l'idée, par exemple, ce que j'ai décidé, et ça marche tout à fait, c'est par exemple de ne jamais me resservir. Et donc, en général, quand je mets une quantité dans mon assiette, puis après, l'estomac, il s'habitue. Hein. Et quand on l'habitue à manger beaucoup, il attend toujours. Et donc, par exemple, je vais vous dire rapidement, avec le pain, par exemple, au petit déjeuner. Déjà, du pain, je n'en mange plus dans la journée. Je n'en mange qu'au petit déjeuner. Et au petit déjeuner, donc, je prends un petit peu de fromage, mais du fromage de brebis ou de chèvre. Après une pincée de confiture ou de miel, et puis j'ai du thé mais sans sucre, et j'aime bien aussi les tartines de sarrasin bio.
Est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que la dimension du plaisir est importante
pour
vous,
Marie? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce que je mange, ce n'est que du plaisir. Je mange jamais quelque chose que je n'aime pas ou qui serait pas bon. Et donc, déjà au petit-déj, j'aime bien ce moment-là, hein, c'est très agréable. Et puis surtout que c'est quand même varié, quoi, puisque je me prends quand même le droit de prendre un petit peu de confiture ou un petit peu de miel, mais ça va être une petite tartine ou deux, etc. Et puis au niveau du pain, c'est vrai, je prends du bio et puis je prends du pain, il y a du pain complet, mais qui est très bon, que je fais un petit peu griller. Ça, c'est pour le petit-déj. Ensuite, à midi, je consomme, comme tout le monde, soit de la viande, soit du poisson. Mais seulement, par exemple, la viande, je cuisine plusieurs portions, de manière à en avoir pour les autres repas. Et après, je garde ou je congèle. Et je mange toujours des légumes.
Michel Desmurgés qui prend des notes.
Non, je trouve que c'est effectivement la démonstration qu'en empilant des petits changements, ça peut avoir des effets importants. Par exemple, le fait d'en faire plusieurs, il y a une chose qui est importante, par exemple, c'est d'être prêt. C'est-à-dire, quand vous avez faim, c'est un signal impératif, et s'il n'y a rien de prêt, vous vous jetez sur la première cochonnerie qui vient. Donc, cette dame qui empile et qui garde, pareil, pour ne pas se resservir, la meilleure méthode, c'est surtout de ne pas mettre les plats sur la table, laissez-les sur la cuisinière ou allez manger dans la salle à manger si vous pouvez.
Et puis la vaisselle, c'est important.
La taille de la vaisselle va déterminer. Si vous avez
des études qui ont été faites.
Ah oui, il y a plusieurs dizaines d'études qui ont été faites sur la taille de la vaisselle, la forme des verres, la taille des. Prenez des couverts entre mets, vous mangerez plus lentement et comme le cerveau se base aussi sur le temps. Et la vaisselle, si je vous mets une assiette plus ou moins grande, encore une fois, c'est ce pouvoir de la norme, vous allez vous servir plus ou moins, plus un biais perceptif qui va faire que. Plus l'assiette est grande, plus vous aurez l'impression que votre portion est petite. Donc oui, c'est des choses qui paraissent anecdotiques, mais qui marchent vraiment.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé et continuer à prendre du plaisir en mangeant de cette façon. Aline Perraudin, est-il pertinent de remplacer le sucre par des édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose?
Mais non, on l'a vu, parce que même s'ils ont un pouvoir sucrant élevé qui n'apporte pas de calories, en fait, il y a vraiment beaucoup d'études qui ont montré que les édulcorants étaient inefficaces pour une perte du poids sur le moyen et long terme. Ni d'ailleurs, ils ne permettent pas non plus de mieux contrôler la glycémie chez les diabétiques. Alors, l'explication qui est donnée, elle pourrait être physiologique, parce que quand on consomme des produits édulcorés, on apporte au palais puis au cerveau du plaisir, bien sûr, mais pas l'apport énergétique. Et notre cerveau, il n'est pas bête. Il y a une structure dans l'hypothalamus qui contrôle notre appétit. Et comme il a comptabilisé qu'il n'y avait pas assez de calories, il va nous faire compenser dans les repas suivants. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à consommer des produits édulcorés. De la même façon, je pense, sur les aliments light, où il faut faire attention parce qu'il y a toujours un phénomène de compensation qui peut s'instaurer.
Michel Desmurgés.
Oui, pour les aller. Alors non seulement il n'y a pas d'intérêt, mais ça peut se révéler négatif pour la perte de poids. Il y a quand même des études qui montrent aussi le diabète, un certain nombre de choses comme ça. Donc si on peut éviter, c'est bien.
Comment éviter les tentations inutiles? Comment tromper notre cerveau? Il est très difficile pour notre cerveau de résister à un stimulus alimentaire appétissant. C'est un combat titanesque.
Oui, les études montrent que si quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas rangé le petit déjeuner des gamins et que vous avez des brioches qui traînent ou des madeleines, avant de ranger le paquet, vous en prenez une. Donc une astuce toute bête, mais qui est réellement efficace, c'est de n'avoir aucun aliment visible. Dans une étude, ils ont comparé des gens. Alors, il y avait des bouteilles de soda, il y avait light ou normal, il y avait des cookies, il y avait tout un tas de facteurs. Si vous laissez une bouteille de soda visible, la différence, le coût, en termes de poids, c'est 12 kilos. Une bouteille de soda light, c'est 11 kilos. Une jarre de cookies visible sur la table, c'est 7 kilos. Donc, il faut tout cacher et vraiment... Quand on a des instigateurs comme ça, même quand on n'a pas faim, on mange. Et quand on les voit pas, on mange pas.
Thibaut de Samoris qui laisse traîner les madeleines sur le comptoir de la cuisine.
Non, mais je pensais à un truc, c'est que le philosophe Épicure explique que quand on n'arrive pas à satisfaire un désir, on peut le convertir la frustration en satisfaisant un autre désir plus facile. Et là, je pense par exemple, si on a faim, est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas, boire de l'eau, prendre un café ou quoi? Est-ce que ce genre de coupe faim liquide ou naturelle, est-ce que ça fonctionne?
Alors boire de l'eau, ça marche pas très bien. Par contre, il y a une chose qui marche bien, par exemple, c'est avant le repas, avant le plat principal, de prendre une salade de crudité ou de prendre une soupe, ça marche. Parce que l'eau, le cerveau, il est pas bête. Vous pouvez, si une ou deux fois, ça va marcher, mais au bout d'un moment, il va se dire qu'on a pris pour une truffe et il va s'adapter.
Bonjour Jean-Luc, vous appelez de Dordogne. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous, en 2011, vous pesiez à peu près 200 kilos. Et vous avez perdu du poids depuis?
Absolument. En 2011, je pesais 211 kilos. Et j'ai subi une intervention de chirurgie bariatrique. Et en fait, j'ai suivi une psychanalyse dans le même temps. Et je suis resté bloqué sur une belle question que m'a posée ma psychanalyste, à savoir, qu'est-ce que vous faites de votre obésité? Et donc, j'ai décidé, en 2011, de me lancer dans un Tour de France. Alors, pas à 211 kilos, mais en 2014, j'allais faire 1000 kilomètres à pied au travers de 50 étapes de 20 kilomètres.
Et vous avez réussi à perdre du poids en marchant, notamment, en plus, évidemment, de cette opération de l'estomac et de l'intestin.
Absolument. En fait, je suis passé de 211 kilos à peu près un peu moins de 120 kilos. Et ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire au fil de ma perte de poids liée à l'opération et puis de mon entraînement lié à la marche également.
Michel Desmurgés, dans votre livre, vous nous expliquez que plus l'effort est brutal, l'effort physique, moins c'est efficace. Marcher reste pour vous la meilleure façon de bouger pour maigrir durablement. Pourquoi?
Je crois qu'on n'a pas inventé mieux que la marche. Parce que quand l'effort est brutal, ce qu'ont montré les études, vous faites un effort brutal, d'abord vous allez avoir tendance à plus compenser derrière sur l'alimentation, et puis surtout vous allez devenir plus sédentaire. C'est-à-dire que ce que vous allez gagner le matin en effort, vous allez le perdre le restant de la journée. Ça a été bien documenté. Donc, mais c'est comme pour la nourriture. Tout ce qui est brutal ne marche pas. Et vraiment, alors ça ne vous empêche pas de temps en temps d'aller faire une partie de sport, une partie de tennis, mais la base vraiment de l'activité physique pour perdre du poids et maintenir. Ouais, la marche, il n'y a pas mieux. Vraiment, on n'a pas inventé mieux. Et ça marche. Et si vraiment vous voulez être super efficace, on disait au début, ça vaut 10 euros, payez-vous un podomètre, accrochez-le à votre culotte. Et c'est d'une efficacité redoutable. Dans une étude, ils ont donné un podomètre à un groupe de gens, ils leur ont dit marcher, et les autres, ils leur ont dit juste marcher. Et ceux qui avaient un podomètre, ils ont marché deux fois plus.
Merci beaucoup, hein, Jean-Luc, de nous avoir appelé de Dordogne. Merci, Michel de Murger. Je recommande L'anti-régime au quotidien, comment maigrir durablement en trompant son cerveau. C'est publié chez Belin. Merci Aline Perraudin d'être venue ce matin, comme tous les lundis. Et merci également à Thibaut de Saint-Maurice. Demain, on se demande s'il est vraiment possible de décoder le langage corporel. Nous recevrons notamment le professeur de sociologie Pascal Lardelier, qui publie Le business de la communication non verbale. Questions, témoignages sur notre adresse grandbienvousfasse@radiofrance.com. À la technique ce matin, Alice Berger et Éric Morin. À suivre, Nagui et sa bande originale.